Radio Okapi.
Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
De nouveaux incidents dans les opérations de riposte contre les virus d'Ebola à Mongoualou. En effet, un groupe de jeunes non identifiés ont incendié les tentes construites à l'hôpital général de référence de Mongoualou pour l'isolement des malades d'Ebola. Selon le responsable de cette structure sanitaire, ces actes de vandalisme ont occasionné la fuite de 13 malades d'Ebola. Nous parlerons aussi de la fin de la crise institutionnelle au Sud Kivu. Un accord de paix a été signé ce samedi à Kinshasa entre l'Assemblée provinciale, le gouverneur des provinces ainsi que le vice-gouverneur sous la médiation du deuxième vice-président du Sénat et notable du Sud Kivu, Norbert Basengezi Kantitima, ensemble avec le président de l'Assemblée nationale. L'invité de ce journal, c'est le nutritionniste Credo Mayeki. Dans un monde où les habitudes alimentaires évoluent rapidement, la consommation des fruits demeure incontournable, dit-il. Ce nutritionniste apporte également des éclaircissements sur les principales questions liées aux bonnes pratiques pour un bon équilibre alimentaire et sanitaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal dominical sur la radio de la paix. En Ituri, des tentes construites pour l'isolement des malades d'Ebola ont été incendiées par des inconnus dans la nuit de vendredi à samedi à l'hôpital général de référence de Mongoualou. C'est à 85 km au nord de Bounia, dans les territoires de Djougou. Selon les responsables de cette structure sanitaire, ces actes de vandalisme ont occasionné la fuite de 13 malades d'Ebola. Un risque pour la propagation de la maladie dans la communauté. Le point avec Martial Kizabiamongo.
C'est vers 23h, heure locale, qu'un groupe de jeunes en colère et dont l'identité reste inconnue a incendié les installations construites avec l'appui de l'ONG Médecins Sans Frontières, MSF, pour l'isolement des patients atteints d'Ebola à Mongoualou. Ces installations hébergeaient 28 personnes, des cas suspects de malades d'Ebola. 13 parmi ces personnes ont pris la fuite. Selon les médecins directeurs de l'hôpital général de Mongoualou, la police a ouvert une enquête pour identifier les auteurs de cet acte de vandalisme, mais aussi pour retrouver les fugitifs qui se sont dissimulés parmi la population, ce qui constitue un grand danger dans la propagation rapide de l'épidémie, s'inquiète le docteur Richard Lukudi. Il y a 3 jours, des actes de vandalisme similaires avaient été enregistrés à l'hôpital général de référence de Rwampara, à la périphérie sud-ouest de Bouya. Radio Kapi a tenté d'appeler le directeur provincial de la santé sur ce sujet. Ce dernier ne nous a pas répondu. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans un autre registre, la République démocratique du Congo demeure fortement exposée aux chocs économiques internationaux en raison de sa dépendance aux importations alimentaires. Dans une note de conjoncture dont une copie est parvenue à Radio Okapi ce samedi, le Programme alimentaire mondial PAM alerte sur les risques que font peser les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les perturbations logistiques mondiales sur la sécurité alimentaire du pays. Malgré un ralentissement de l'inflation, la hausse des prix des carburants continue de ronger le pouvoir d'achat des ménages, tandis que l'insécurité persistante dans l'Est aggrave les besoins humanitaires. D'autres détails avec Elaché Mbalo.
Dans sa note, le Programme alimentaire mondial souligne la forte dépendance de la RDC aux importations pour l'approvisionnement en produits alimentaires de base. Une situation qui rend le pays particulièrement vulnérable aux perturbations des marchés internationaux et à la hausse des coûts des transports. Cette pression économique intervient alors que plusieurs provinces de l'Est restent confrontées à l'insécurité, au déplacement des populations et aux difficultés d'accès humanitaire. Le PAM révèle également que les niveaux d'insécurité alimentaire aiguillent de manière préoccupante, notamment dans les zones affectées par les conflits. Pour limiter les risques d'aggravation de la situation, l'organisation préconise les renforcements de l'aide humanitaire, les soutiens à la production agricole locale et la diversification des sources d'approvisionnement alimentaire. Pour les programmes alimentaires mondiaux, ces mesures sont indispensables pour renforcer la résilience des ménages congolais face aux chocs économiques et sécuritaires qui menacent leur accès à l'alimentation.
Et puis la problématique de l'augmentation du coût du transport des produits pétroliers dans la province de la Tchopo, le ministère de l'économie nationale rassure que les préoccupations exprimées ont été dûment examinées par les experts. En deux semaines, le prix du litre de carburant est passé de 3500 à 5500 francs congolais. À cet effet, les concertations techniques se poursuivront en vue d'identifier les problèmes et de mettre en œuvre les solutions les plus appropriées. C'est ce qu'indique le communiqué publié ce vendredi, à la suite du travail tripartite tenu entre les délégués de la Fédération des entreprises du Congo, les représentants de la province de la Tchopo et les experts du ministère de l'économie nationale portant sur des questions spécifiques liées à la structure des prix des produits pétroliers dans cette province. Des détails avec Christian Makasinga.
Le ministère souligne la nécessité de maintenir un dialogue permanent entre les opérateurs pétroliers de la Tchopo et les comités de suivi de prix des produits pétroliers afin de permettre aux opérateurs concernés de bénéficier pleinement de mesures d'accompagnement et des facilités mises en place par le gouvernement pour soutenir les activités du secteur. S'agissant du protocole d'accord relatif à la participation du secteur pétrolier au soutien des actions de développement de la province, le ministère invite les parties à s'accorder sur un niveau de contribution qui ne perturbe pas l'équilibre économique des opérateurs pétroliers. En ce qui concerne les taxes de transit appliquées aux produits pétroliers, les dossiers sera transmis à la hiérarchie compétente pour examen approfondi en vue de dégager une solution durable susceptible de mettre fin au surcoût qu'est subi le produit pétrolier. Pour le paiement de la subvention de l'État en faveur de sociétés pétrolières légalement établies et en règle avec les exigences administratives et réglementaires, les ministères recommandent à la FEC Tchopo de s'inspirer du modèle de la collaboration déjà mise en œuvre avec succès par les entités de la FEC Ouest, Sud et Est pour bénéficier de l'accès aux mécanismes d'appui gouvernementaux destinés à la profession pétrolière. Le ministère de l'économie nationale réaffirme ainsi sa disponibilité à accompagner l'ensemble des opérateurs économiques du pays de manière à œuvrer dans un environnement stable et transparent.
À Kinshasa, une vive tension a été observée dans l'avant-midi de vendredi à Binzaozone, dans la commune d'Engalema, où plusieurs habitants ont manifesté leur colère contre la construction d'une nouvelle station-service dans leur quartier. Hommes, enfants et femmes sont descendus dans la rue pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un danger pour leur santé. Les manifestants affirment aussi que ce projet risque d'aggraver les embouteillages dans cette partie de la ville et d'exposer davantage les élèves aux accidents de circulation, car cette station se trouve non loin du lycée Tobongisa. Un reportage de Jérémy Baraka, rendu par Gloriane Lepea.
Au cours de leur marche des colères, les manifestants ont brûlé plusieurs pneus. Le revendeur de carburant et quelques tenanciers du petit commerce de ces quartiers ont également pris part à cette manifestation. On écoute l'un d'eux.
C'est là qu'on commence à embrayer la population. Parce que les élèves ont commencé à passer calmement. Mais eux, ils ont construit leur station pour commencer à diminuer la route. Il y a eu maintenant, il n'y a pas vraiment de passage normalement. Les gens commencent à passer avec trop de difficultés. Les élèves ne savent pas comment passer. S'il y a l'embouteillage ici, il n'y a pas moyen de passer. Ça dérange tout le monde. Pour cela, la population a déclaré qu'on laisse cette partie vide pour que l'école soit un peu tranquille et que les gens puissent commencer à passer à l'aise et les élèves soient libres devant leur école.
La population appelle les autorités compétentes à intervenir rapidement afin d'évaluer les risques liés à ces projets. Nos efforts pour entrer en contact avec l'entreprise présentée comme propriétaire de cette station-service en construction n'ont pas encore abouti.
Fin de la crise institutionnelle au Sud Kivu. Un accord de paix a été signé ce samedi à Kinshasa entre l'Assemblée provinciale, le gouverneur des provinces ainsi que le vice-gouverneur. La signature est intervenue à l'issue des discussions organisées au Palais du Peuple sous la présidence du deuxième vice-président du Sénat et notable du Sud Kivu, Norbert Basengezi Kantitima, aux côtés du président de l'Assemblée nationale, des sénateurs, des députés nationaux et provinciaux du Sud Kivu, du représentant du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, ainsi que des responsables des partis politiques et des notables de la province. Norbert Basengezi Kantitima appelle désormais les différents partis signataires à respecter ces accords afin de rétablir le calme et favoriser le développement de la province. Il est au micro de Grace Amzati.
Nous célébrons comme Sud Kivu l'accord de paix et d'entente qu'on appelle l'accord de la Pentecôte, parce que il y avait des conflits qui nous déchiraient chez nous, et gloire à Dieu, nous venons de nous entendre entre les députés provinciaux d'une part et les gouverneurs de province et son vice-gouverneur d'autre part, et entre les gouverneurs et son vice-gouverneur d'autre part. Nous n'étions pas contents parce que on ne pourrait pas faire les lits à l'ennemi, et le chef nous a demandé de nous mettre ensemble pour voir ce qui nous unit et laisser de côté ce qui nous divise. Aujourd'hui, on vient de signer deux documents appelés Code de bonne conduite et un deuxième document appelé Acte d'engagement de nos députés provinciaux et de notre exécutif provincial pour la bonne conduite et la bonne gouvernance de notre province. Il était honteux et confus pour nous de commencer une guerre politique dans une autre guerre. Et ça fait 2-3 semaines que nous sommes derrière ce dossier, mais Dieu a dit qu'aujourd'hui, fini les bruits, fini les divisions, il y a un temps pour tout.
Concernant la motion de censure initiée contre le gouverneur du Sud Kivu, notamment pour mauvaise gestion, Norbert Basengezi Kantitima affirme que les règles de fonctionnement de l'Assemblée provinciale seront respectées, rappelant qu'il existe une procédure légale encadrant ces types d'actions parlementaires. Au Nord Kivu voisin, pendant ces temps, une trentaine de femmes leaders des régions de Beni, Butembo et Lubero s'engagent à devenir des relais communautaires pour promouvoir les processus de paix, lutter contre la désinformation et renforcer la protection des civils. Cet engagement a été pris jeudi à Beni à la clôture d'un atelier de 2 jours organisé par la section des affaires civiles de la MONUSCO. Les participantes ont également été formées aux techniques de plaidoyer, au mandat de la mission onusienne ainsi qu'aux résolutions 1325 et 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Guylaine Kavira Mwangaza, vice-présidente de la société civile de Kiamboho dans les territoires de Lubero, revient sur l'importance de cette formation. Elle est au micro de Martial Papimukeba.
Ce thème que nous avons appris est très important. Maintenant, nous sommes engagés à sensibiliser toutes les femmes afin qu'ensemble, nous puissions contribuer à la cohésion sociale, mais également à lutter contre la désinformation, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous connaissions dans les mauvais sens. Cette formation nous a beaucoup aidés. En rapport avec la résolution 1325, nous allons encourager les femmes à s'impliquer davantage pour que l'application de cette résolution soit effective dans les actes. Et concernant les techniques de plaidoyer, désormais, nous sommes outillés pour améliorer et mieux mener nos plaidoyers. Nous savons maintenant ce que nous devons écrire et à qui nous devons nous adresser dans nos plaidoyers.
Direction la ville de Mbandaka, où le cadre de concertation de la société civile de l'Équateur, SOCIPEC, se prononce sur les projets de révision ou de changement de la Constitution. Cette organisation a rendu public jeudi 21 mai une déclaration dans laquelle elle précise que le moment n'est pas encore opportun pour réviser ou changer la constitution actuelle. Toutefois, la SOCIPEC reconnaît les faiblesses que renferme cette loi fondamentale. Elle l'a fait savoir devant la presse locale après examen et analyse des 6 points sociopolitiques dans la province de l'Équateur et en RDC. Des détails avec Askin Zigbia.
Selon cette déclaration faite par Fabien Mungunza, président du cadre de concertation de la société civile de l'Équateur, les priorités actuelles pour la République sont notamment la recherche de la paix à l'est du pays, la lutte contre l'épidémie d'Ebola, la lutte contre la corruption, l'injustice, le clientélisme, le népotisme et la promotion de l'état des droits. Dans ses analyses sur la situation sociopolitique en RDC, cette structure relève qu'il existe trop de divergences concernant ces projets de révision de la loi mère du pays. Le constat de la SOCIPEC fait apparaître 3 courants qui se dégagent autour du débat sur la réforme constitutionnelle, à savoir une catégorie d'acteurs politiques se dit favorable à la révision, tandis qu'une autre mouvance s'y oppose farouchement. La SOCIPEC admet certaines faiblesses de la loi fondamentale de la RDC qui mériterait une révision, mais estime que, pour l'instant, cette réforme ne revêt pas un caractère urgent. Par ailleurs, la déclaration de la société civile a touché le secteur social. Elle dénonce les mauvais traitements infligés aux agents et fonctionnaires de l'État lors du paiement de leurs salaires. En effet, selon Fabien Mungunza, les banques commerciales et les coopératives ont alourdi les procédures administratives, ce qui rend difficile l'accès des agents de l'État à leurs salaires.
Dans la province du Maniema, un éboulement de terre a coûté la vie à au moins 10 personnes dans un carré minier à Mirundu, dans le territoire de Kasongo. Cette information a été rendue publique ce samedi 23 mai par le ministre provincial des Mines. Dami Bin Djuma Darius évoque le non-respect de la législation minière. Il annonce l'arrivée d'une délégation sur les lieux du drame pour s'enquérir de la situation et des mesures prises par le gouvernement provincial afin que ce genre de situation ne se reproduise plus. Dami Bin Djuma Darius, ministre provincial en charge des mines, au micro de Florence Kizalunga.
Affirmativement, il y a eu éboulement. Il y aurait là les messages qui nous est parvenu des cas de décès dans ce tunnel. Et c'est présumé plus ou moins de 10 personnes qui sont décédées. Le gouvernement provincial s'active déjà pour envoyer une équipe afin qu'une enquête soit menée. L'éboulement signalé à tout le temps, oui, c'est la non-réglementation de la législation minière dans la province par les services qui sont censés rendre compte de ce qui prévoit la loi. Voilà, au moins nous sommes en tête de nous activer, de sorte que les services qui nous représentent dans des sites, qu'ils puissent au moins appliquer la législation minière en République démocratique du Congo pour empêcher les cas récents qui s'est produit à Mirundu dans le territoire de Kasongo. Les travaux des tunnels sont vraiment interdits, ne peuvent pas continuer à s'entendre. Voilà comme des mesures à court terme que nous sommes en train de vouloir prendre afin que ces gens soient au moins les circonstances comme celles dont nous venons de vivre du côté Mirundu ne puisse pas se produire encore.
À Lubumbashi, lancement ce samedi au centre Bakanja Magon, dans la commune Kenya du projet Keshonietu, qui veut dire « le futur nous appartient ». Une initiative qui soutient plus de 280 jeunes vulnérables et enfants en rupture familiale en leur offrant des compétences pratiques et génératrices de revenus. À cet effet, la fondation appartenant à une société de télécommunications de la place a offert un lot important de machines à coudre. Le point avec Paulin Munanga.
Pour les responsables du centre Bakanja Magone, cette assistance est une bouffée d'oxygène pour les jeunes qui manquent de matériel pour leur formation. Robert Bahati.
Cette assistance consiste à venir équiper nos jeunes dans la formation en coupe et couture. Parce que les jeunes qui étaient là, ils n'avaient pas beaucoup de machines, mais avec un nombre important de machines à coudre qu'elle vient de nous donner, ça va vraiment nous servir énormément pour la section en coupe et couture. Et je pense que c'est aussi un moment important où nous pouvons inviter d'autres personnes qui pourraient nous soutenir dans ce que nous faisons.
Signalons par ailleurs que le centre Bakanja Magone organise diverses activités pour l'encadrement des jeunes vulnérables. C'est notamment la soudure. Medine Mujinga suit une formation dans ce domaine. Elle donne les raisons.
Il y a ceux qui m'encouragent et ceux qui se moquent de moi. Les autres me disent, est-ce que toi tu vas réussir? Est-ce que comme tu travailles, ton mari, ainsi de suite. Les autres me disent, est-ce que tu auras la force de travailler dans l'entreprise? Ce n'est pas seulement facile, mais je m'adapte quand même.
Le centre Bakanja Magone est un réseau dénommé œuvre Maman Marguerite. Il est composé de 14 centres d'accueil, de rééducation et de formation professionnelle des jeunes vulnérables. Ce réseau est géré par les Salésiens de Don Bosco. Lubumbashi, Polem Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient, les États-Unis vont-ils de nouveau frapper l'Iran alors que les négociations ne semblent pas avancer? Selon la presse américaine, les préparatifs pour une reprise de l'opération militaire contre l'Iran sont bien en cours, mais Donald Trump n'a pas encore pris la décision. Néanmoins, il a annulé son week-end prévu dans un club de golf dans le New Jersey et sa venue au mariage de son fils Donald Jr. Israël, pour le moment, absent des négociations, s'inquiète de son isolement diplomatique.
L'invité.
Le nutritionniste Credo Maillet qui est notre invité. Dans un monde où les habitudes alimentaires évoluent rapidement, la consommation de fruits demeure incontournable, dit-il. Credo Maillet qui apporte également des éclaircissements sur les principales questions liées aux bonnes pratiques pour un bon équilibre alimentaire et sanitaire. Il s'entretient avec Sephora Mpaka.
Bonjour Monsieur Credo.
Bonjour Madame.
Nous allons aborder les sujets autour de la consommation et les bienfaits de fruits dans l'organisme humain. Pourquoi est-il essentiel d'inclure la consommation de fruits dans l'alimentation humaine?
Alors pour répondre à votre première question, il faut dire que les fruits sont très importants pour la santé parce qu'ils apportent des vitamines, les fruits apportent des fibres, les fruits apportent des antioxydants. Donc ce sont les nutriments là qui permettent à ce que notre corps puisse bien fonctionner. Ça renforce les systèmes immunitaires. Les systèmes immunitaires, ce sont comme les soldats de notre corps. Notre corps a une armée. Si votre système immunitaire est efficace, vous allez moins tomber malade. Alors, si votre système immunitaire est faible, en tout cas, vous aurez toujours des maladies.
Et comment la consommation régulière de fruits contribue-t-elle à la prévention de maladies?
Les fruits nous aident aussi à prévenir certaines maladies comme les diabètes, l'hypertension. Nous avons les maladies du cœur. Certains cancers sont aussi prévenus par rapport aux fruits.
Combien de portions de fruits conseillez-vous par jour selon les recommandations nutritionnelles?
Alors, concernant la quantité de fruits, il est recommandé de consommer les fruits chaque jour, environ 2 à 5 portions. Ça dépend selon les besoins de chacun, concernant son état de santé. Et ce que je recommande aussi, il faut éviter les excès, surtout chez les personnes diabétiques. Savoir contrôler la quantité, c'est très capital. Je vais balayer ce que j'attends souvent dans notre société ou bien sur les réseaux sociaux, que pour être en bonne santé, il faut nécessairement manger 5 fruits et 5 légumes par jour. Non, ce n'est pas consommer 5 fruits à part, 5 légumes à part. C'est consommer 5 portions de fruits et légumes. Cela veut dire quoi? Le matin, dans votre petit déjeuner, vous prenez le petit déjeuner avec un avocat. Ça fait déjà une portion, un fruit. Quelques temps après, nous avons la peau des oranges. Vous consommez une orange, c'est déjà 2 fruits, 2 portions. Les après-midi, après quelques temps, vous prenez la banane, ça fait déjà 3 portions, 3 fruits. Et vous allez manger les foufous avec les pondous. Mais dans les pondous, il y a les concombres que vous avez mis. Dans les pondous, un légume, ça fait 4. Et à l'intérieur des pondous, il y a les concombres qui fait 5 portions. Donc, c'est ça qui est recommandé selon l'OMS, 400 grammes de fibres. Donc, ce n'est pas nécessairement 5 fruits et 5 légumes à part. Non.
Quels sont les fruits indispensables à inclure dans une alimentation équilibrée?
Parmi les fruits qui sont indispensables dans une alimentation équilibrée, aux gens de consommer, comme nous sommes pendant la période des oranges, parce que les oranges apportent de la vitamine C. Si vous regardez, à chaque saison, il y a un type de fruit qui apparaît. Donc, nous entrons petit à petit à la saison sèche. Alors, il faut consommer les oranges pour lutter contre les maladies pulmonaires qui viennent souvent des rhumes, grippes. La vitamine C va combattre ces maladies.
Et à quel moment de la journée est-il préférable de consommer le fruit?
Alors, concernant les moments idéaux de consommer, faut savoir que les fruits peuvent être consommés le matin. Si vous n'avez pas l'estomac sensible, problème d'estomac ou bien de la gastrite, là, en tout cas, il faut éviter à jeun. Vous pouvez consommer 30 minutes avant les repas ou 30 minutes après les repas. Donc, les fruits ne se consomment pas directement après les repas, non. Raison pour laquelle beaucoup ont des problèmes de ballonnement. Et il y a d'autres fruits qui se fermentent.
En tant que nutritionniste, comment adapter la consommation de fruits selon l'âge, les niveaux d'activité physique ou les conditions médicales?
Alors, ce qui concerne les enfants ou les personnes âgées, pour les enfants, les types de fruits qu'il faut consommer, nous avons la banane, nous avons l'orange, nous avons la papaye, sont très bénéfiques pour les enfants. Pour les personnes âgées, nous avons la pomme, l'avocat, parce qu'il faut régulariser la tension. Dans l'avocat, nous avons le potassium.
Dernière question, quels sont les fruits qui contribuent le plus à l'hydratation?
C'est la pastèque, la peau aime l'hydratation. Une personne qui consomme beaucoup de fruits qui hydratent le corps, en tout cas, sa peau sera toujours au top. Notre corps a besoin de l'eau, mais notre peau aussi a besoin de l'eau. Si vous voulez avoir une très belle peau, en tout cas, que la pastèque soit votre.
Merci Monsieur Credo, nous rappelons que vous êtes nutritionniste et expert en aliments. Merci pour le temps accordé.
Merci beaucoup.
C'était donc notre invité, le nutritionniste Credo Mayeki, qui s'entretenait avec Sephora Mpaka Chipuna. Et c'est ce qui met fin à cette édition du journal préparée pour vous par Jude Mystère William Dankoumar et mise en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.